Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour, vous montrer qu'il y a autour de nous des associations, des villes, des entreprises qui font changer les choses pour construire la société de demain. C'est le 20e salon culture et jeux mathématiques en ce moment et vous allez voir que même ceux qui sont hermétiques peuvent se découvrir une passion grâce à nos invités. Elle existe depuis 1921, elle est connue pour ses emblématiques sac à dos, Millet et l'entreprise qui va bien merci. Et puis, une plateforme dédiée à la santé des hommes, elle s'appelle Charles, c'est la solution pour leur faciliter la prise de rendez-vous. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire si vous aimez les maths ou si, comme moi, vous avez toujours été nul dès qu'il s'agit de calcul, Anissa.
Oui, vous êtes peut-être parent, vous devez aider vos enfants en maths et vous bloquer, bah venez nous le dire aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et on vous écoute au standard, c'est maintenant qu'il faut composer le 39-21, 50 centimes la minute.
Eh oui, car se tient en ce moment, je vous le disais, le 20e salon culture et jeux mathématiques et vous allez voir que les maths sont partout, même là où on ne les attend pas forcément. Pour accueillir nos invités, à mes côtés aujourd'hui, il y a Paul Lassen. Bonjour Paul.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Jean-François Rial qui nous accompagne, fondateur et président de Voyageurs du Monde. Bonjour,
bonjour
Jean-François.
Raphaël.
N'est pas matheux qui veut, vous serez d'accord avec moi, mais pour faire certains métiers, il faut en passer par ces cursus-là. Mais encore faut-il avoir le niveau. C'est pour mettre nos jeunes, notamment à la portée de chacun et faire en sorte que les jeunes puissent aller vers les métiers qu'ils ont envie de faire, que Yokimi a été créé. Bonjour Karl Boibou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Yokimi, qui est une plateforme, mais aussi une appli qui permet de faire du cas par cas pour les élèves. Racontez-moi d'abord comment est né dans votre tête ce projet. Pourquoi Yokimi d'abord peut-être ? Pourquoi le nom ?
Alors, en fait, ce sont les jeunes qui ont choisi le nom.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est manga en ce moment. Donc, on a fait des votes dans plusieurs écoles et Yokimi est remonté en premier.
Ouais, Yokimi voilà. Qui est un petit renard. Hein.
Exactement, pareil, ce sont les jeunes qui ont trouvé ce petit renard un peu coach avec le bandeau sportif autour de la tête.
Alors comment est-ce que vous décidez d'être coach justement pour ces élèves ?
Alors c'est pas moi le coach, c'est Yokimi, donc c'est le petit renard. Et donc en effet comment ça a commencé ? Donc en fait quand j'étais étudiant je donnais des cours particuliers de mathématiques, donc à des collégiens, à des lycéens. Et puis j'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui pouvaient s'automatiser. Et en plus ça pouvait être très très cher pour les parents. Donc un cours particulier c'est environ 50 euros pour 2 heures de cours. Et en plus, il est là que 2 heures dans la semaine en moyenne. Et donc voilà, on s'est dit, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait automatiser et rendre plus ludique grâce au numérique.
Donc vous décidez de monter votre entreprise, on est en 2018.
Oui.
Pour qu'elle ait aussi du sens, hein, c'est assez logiquement finalement que vous vous êtes tourné vers ce domaine de l'éducation.
Exactement. En fait, on cherchait vraiment à donner du sens à nos études. Et donc on voyait que dans l'éducation, il y avait beaucoup de choses à faire. Qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont leur manuel scolaire, ils ont des sites internet, mais qu'ils n'utilisent pas très souvent. Et donc, ils sont tout le temps sur le numérique, mais pas pour apprendre. Et donc, on s'est dit, voilà, autant utiliser le numérique pour qu'ils apprennent. Et les maths, en l'occurrence, qui sont souvent un gros problème.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez travaillé avec une enseignante de français. Et c'est en parlant avec elle que vous avez réalisé qu'il y avait un véritable problème de niveau et qu'il faudrait pouvoir justement personnaliser pour chaque enfant pour que ça marche.
Exactement. Donc, en fait, elle est enseignante de français. Donc, aujourd'hui, on commence par les maths, mais on veut s'ouvrir aussi à d'autres matières plus tard. Et elle, ce qu'elle ressentait, c'est qu'en exerçant son métier, elle avait besoin d'aide pour différencier sa pédagogie au niveau de chaque élève. Donc, intéresser chacun des 30 élèves aux apprentissages. Donc, les élèves qui sont plus en avance, prendre encore plus d'avance. Les élèves en difficulté, rattraper le retard qu'ils peuvent avoir.
Justement, première question de notre coach.
Intelligence artificielle derrière ? Plutôt
oui.
De la big data ou de la vraie intelligence artificielle ? Comment vous gérez ça ?
Alors pour l'instant, on a une combinaison de deux choses. Donc on a d'abord un système expert qui est rempli de pédagogie, de sciences cognitives.
Ouais.
En fait, ce sont des algorithmes d'adaptation qui ne sont pas vraiment encore dans l'intelligence artificielle, mais qui permettent d'adapter le parcours d'apprentissage
D'accord.
au niveau de chaque élève.
En fait, et donc, vous faites une espèce d'audit de chaque élève.
En continu, exactement, un diagnostic continu
voilà,
de l'élève.
Et vous adaptez.
Okay. Exactement.
Et vous avez des résultats ou pas ? Vous avez commencé à voir si vous êtes meilleur que le cours magistral unique et uniforme pour tout le monde, ou si vous vous faites plaisir, mais qu'en réalité, vous n'êtes pas capable de faire progresser des gens qui n'ont pas de sensibilité aux maths, type Raphaël.
Exactement,
par exemple,
je vais vous faire une démonstration d'ailleurs.
Ouais, ouais. Hein ? Alors, on n'a pas encore de résultats concrets, puisqu'on est encore
c'est
jeune.
C'est trop tôt.
D'accord. C'est encore trop tôt. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution qui marche pour tous les élèves. Ce qu'on va apporter, c'est voilà, notre complémentarité par rapport à ce qui existe déjà.
On va essayer, parce que j'ai avec moi votre tablette Yokimi. Elle est là. Alors, on va dire que je m'appelle Nadia. Et que, voilà, Yokimi me dit coucou Nadia et me demande Tiens, il a préparé des nouvelles choses à découvrir. Est-ce que je suis prête à explorer de nouveaux horizons ? Bon, on va dire oui. Prête à explorer. On va me proposer des notions à explorer. Les additions, les fractions, les multiplications. Je vais prendre quelque chose de simple.
Hein. Allez,
les
additions, sur addition.
Ouais. Oui, oui, il vaut mieux. Ouais. J'ai peur sinon du résultat. Addition. Reprenons là où on s'était arrêté la dernière fois. Commençons d'abord par des questions pour que j'apprenne à te connaître. Ce n'est pas grave si tu te trompes. Ce sera même utile pour que je puisse t'aider au mieux. Je suis prête. Voilà. Allons-y. Je suis prête et hop, ça ne marche pas. Bon, addition, non. Il y a peut-être un... Ah voilà, je suis prête. Donc, on va voir ce que Yokimi me demande. Que vais-je pouvoir te poser comme question à l'aide d'une feuille et d'un stylo ? Quel est le résultat de 889 et 518 ? Anissa, je vous laisse faire.
Alors, je suis en train. Quelqu'un a une calculette ?
Alors, est-ce que, il faut faire du calcul mental, ça s'adapte au cas particulier. Là, Nadia, par exemple, elle a quel âge pour qu'on lui demande d'additionner?
Alors, je pense qu'elle devait être en fin élémentaire,
d'accord,
coup, à ce moment-là.
Donc,
mais alors voilà,
c'est 1407.
Oui, Anissa, le niveau cours élémentaire.
Niveau CP.
Donc il y a toute une série. Et si je me trompe, par exemple, si je mets un mauvais résultat, qu'est-ce qui va se passer?
Exactement. Ou même si vous avez en fait oublié comment faire des additions.
Si j'ai oublié une retenue, par exemple.
Exactement. En fait, vous pouvez demander à Yokimi de l'aide. Vous pouvez lui dire ah, j'ai pas vu ça à l'école, ou j'ai oublié, ou je sais pas, ou même JSP. Donc il faut comprendre les abréviations des jeunes.
Ah, là, elle me demande si j'ai besoin d'un indice. Ça veut dire qu'il y a un délai aussi qui est pris en compte. Hein.
C'est ça. Au bout d'un certain moment, on propose à l'élève un petit indice si jamais il en a besoin.
Jean-François.
Karl, ça marche. Votre système, là, il est adapté à plusieurs niveaux. Comment ça marche? C'est uniquement cours élémentaire. On va au lycée, on va au collège, jusqu'où on va là.
Ouais, alors,
mathématiques. Par exemple, moi, j'ai fait maths P. À un moment donné, j'ai fait de la topologie. Ouais. Ça commence à être un peu compliqué.
On
vous auriez pu m'aider un peu, là,
Matspé, on couvre pas
Yokini,
encore.
En topologie?
Alors pour l'instant, pas vraiment.
Pour l'instant, c'est CM1, en fait, 5e, pour l'instant?
Pour l'instant, et on est en train d'ajouter 4e, 3e. Donc là, pour le brevet, j'espère qu'on aura déjà un peu plus de choses. Et éventuellement le lycée,
d'accord,
plus tard.
L'aspect interactif, l'aspect ludique, justement, ça aide les élèves à entrer dans la matière?
Complètement. En fait, ils veulent tout de suite gagner plein de points dans l'application. Après, ils pourront personnaliser leur petit avatar également. Donc l'aspect ludique les aide vraiment à s'y mettre. Et à leur montrer que c'est un vrai plaisir, en fait.
Paul, je crois que vous avez trouvé aussi une plateforme éducative en ligne qui permet aux élèves de s'instruire. Alors là, pour le coup, du CP à la terminale?
Oui, absolument. Ouais. Ça s'appelle la Khan Academy. K-H-A-N. Et dès le plus jeune âge, les écoliers peuvent s'appuyer sur les vidéos mises en ligne pour compléter les cours à l'école. Ça va des bases du calcul, comme on l'a vu là, l'addition, la soustraction, jusqu'aux probabilités ou aux fameuses équations différentielles. Donc Raphaël, je ne vais pas vous rappeler de mauvais souvenirs.
Non.
Un apprentissage très utile, puisqu'après chaque leçon, il y a un exercice pratique pour vérifier que l'élève a bien compris ce qu'il vient d'apprendre. Mmh. Autre utilité, c'est la possibilité de suivre l'enseignement pendant le passage entre deux classes, histoire de ne pas arriver largué à la rentrée.
Mais, sauf que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Hein.
Non, c'est une autre plateforme.
On propose autre chose. On montre qu'il y a d'autres.
C'est du cours classique en ligne, ça.
Absolument, c'est un complément.
Oui,
c'est du sur-mesure.
On est d'accord.
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves sur ce genre de plateforme peuvent se perdre parce qu'il y a beaucoup d'informations et ils ne savent pas s'autodiagnostiquer pour savoir quoi réviser.
D'où l'intérêt de vraiment tricoter quelque chose qui leur correspond.
Exactement. Yokimi décide ce qu'on fait, en fait.
Moi, j'ai une question à vous poser, Karl. L'éducation nationale, vous arrivez à dealer avec eux? Ils sont capables de...
Alors, dealer, c'est un
dealer
grand mot.
Dealer peut-être pas, mais...
Ils arrivent à comprendre que ça peut être intéressant ou ils restent dans leur voie traditionnelle, conservatrice, et ils refusent d'intégrer les technologies que vous proposez?
Alors, ils font beaucoup d'efforts pour évoluer.
Super.
Donc, on est en contact avec eux et donc, petit à petit, on espère complètement travailler avec eux main dans la main. Mais ça prend du temps.
Mais là, aujourd'hui,
et on va continuer dans un instant à parler mathématiques. Je sais, j'ai toujours beaucoup de mal à l'arrêter. Jean-François, il est passionné, il est comme ça.
On
revient, Jean-François, dans un instant.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Apprendre en jouant, c'est aussi, vous allez voir, le but des escape games créés par la Maison des Maths de Lyon. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et avec vos invités, on s'intéresse aux manières innovantes et ludiques d'apprendre les maths aux élèves. Vous aussi, vous craignez les maths? Eh bien, venez nous le dire. Vous avez des questions sur ces manières innovantes d'apprendre les maths? Posez vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et 3921, c'est le standard.
Et c'est vrai que pour faire aimer les mathématiques, il faut savoir aborder la matière de manière moins rébarbative, montrer son utilité dans les applications du quotidien ou tout simplement la rendre ludique. C'est ce que vous vous êtes attaché à faire. Jean-Baptiste Aubin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon. C'est naturel quand on est, comme vous, professeur de de mathématiques, de se tourner vers notamment la conception d'escape game?
Alors ça peut ne pas être naturel du tout, parce qu'en effet, quand on travaille à l'université, on est plutôt tourné naturellement vers la recherche ou l'enseignement. D'ailleurs, souvent, on est enseignant-chercheur. Et on oublie un peu la troisième mission de l'université, qui est la diffusion des maths auprès du grand public. Et quand on veut essayer de mener à bien cette troisième mission, et ben on se rend compte très vite que
le jeu est important.
Il va falloir en effet innover et essayer de trouver des façons de toucher le grand public, parce que si on parle de nos recherches directement, on a bien des chances de toucher personne.
Alors comment vous avez fait ? Vous êtes allé voir un professionnel du jeu, de l'escape game, et vous avez travaillé avec lui pour concevoir un univers ?
Exactement, c'est-à-dire que dans notre structure, à la Maison des maths et de l'informatique de Lyon, nous, ce qu'on aime bien, c'est aller vers les autres et surtout essayer, par exemple, d'intégrer des artistes ou alors des didacticiens ou des enseignants, enfin des gens qui ont l'habitude de parler un peu avec le grand public, contrairement a priori aux chercheurs. Et donc, on a été voir quelqu'un qui fabrique des escape games, qui s'appelle Jean-Pierre Creuser, qui est très bon et qui nous a donc prêté main forte pour créer cette animation.
Donc, on est dans une salle de conférence de mathématiques et la personne qui donne la conférence s'est fait voler ses découvertes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que je suppose que plusieurs parmi vous ont déjà fait des escape games.
On peut jouer, hein, c'est à partir de 8 ans, je me suis renseignée avant.
C'est ça, parce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas rester bloqué dedans quand on est nul en maths, quoi.
Ah, j'espère.
Peut-être toi, oui.
Ah, il y a des chances que je n'en ressorte jamais.
Ouais. Ça, ce serait dommage. Non, l'idée, c'est que ce soit adapté pour un public à partir de 8 ans. C'est-à-dire, on a visé fin de l'école primaire, de manière à ce que, même si on a des souvenirs très lointains des maths,
on est
ça passe. D'accord. Donc, clairement, les chercheurs ne vont pas parler de leur recherche dans cet escape game. C'est pour s'amuser, pour faire un peu de maths, un peu de géométrie à des niveaux très, très basiques.
Comme par exemple.
Et pour qu'on s'amuse. Alors, par exemple, on va aborder des petits problèmes comme les carrés magiques. Ou alors des formes géométriques basiques comme les cercles, les cubes, des choses comme ça, et qui vont permettre de résoudre des énigmes. Et puis il y a aussi toute une part super importante, comme tout escape game, qui est de l'observation. Il va falloir trouver des indices dans la salle, il va falloir se déplacer. Et puis du coup, comme on avait la chance d'être à l'université quand même, on est à l'ENS de Lyon, quand on vient faire l'escape game, on n'avait pas besoin de refabriquer un bateau de pirate ou un truc comme ça. On était directement dans le cadre qu'il fallait, quoi.
Vous avez créé cet escape game, mais avant ça, vous avez aussi réalisé des contes pour enfants, pour les plus petits, des contes mathématiques, des tournois avec des énigmes. On est vraiment à chaque fois dans cette dimension ludique.
Oui, oui, oui. Et c'est-à-dire qu'on s'est basé un peu sur des études psychologiques qui font peur, qui sont les suivantes. C'est-à-dire que si vous dites à un groupe d'élèves, on va faire de la géométrie maintenant, résolvez cet exercice, les élèves vont moins bien réussir que si on dit maintenant on va faire du dessin. Allez-y, on va faire comme ça.
Oui,
et là, les élèves réussissent. Et là, on.
Et alors, combien il y en a qui viennent là Parce que moi, j'adore là, votre truc là. Normal sup mathématique qui fait des essais.
J'ai peut-être loupé une vocation, imaginez.
Mais il y en a combien qui viennent là dans votre conférence là
qui vient. Alors, ça dépend. En fait, on a beaucoup. On essaie d'innover à tout bout de champ. Pour l'escape game, on a eu une vingtaine de samedis matins qui étaient réservés dans notre maison des maths et de l'informatique.
Combien il y a de personnes
pour recevoir des gens? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces escape games, comme tous les escape games, on ne peut pas le faire à 20 ou 30, quoi. Donc, c'est un peu limité. Il y a 5 ou 6 personnes qui viennent à chaque fois.
D'accord.
Et en gros, il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui viennent tous les matins, quoi. Enfin, tous les samedis matins.
Paul, depuis 1989, je crois que vous avez aussi trouvé une association qui permet aux élèves de rencontrer de vrais mathématiciens. Tout ça pour, là aussi, créer des vocations.
Oui, ça s'appelle Math Engine. C'est d'abord une méthode qui vise à faire vivre les mathématiques par les jeunes en utilisant les principes de la recherche mathématique. Concrètement, elle permet aux étudiants de rencontrer des chercheurs et de pratiquer en milieu scolaire une vraie démarche scientifique. On est un peu plus loin que le simple apprentissage du théorème. On passe du théorique aux travaux pratiques tout en restant dans des thèmes de recherche très actuels. Ça permet d'un côté aux passionnés de ces matières d'approfondir leur passion et à ceux qui seraient un peu plus réticents de se découvrir une nouvelle vocation.
Et puis ce qui est intéressant aussi avec vos initiatives, c'est que vous aidez les parents à se former pour qu'ils puissent eux-mêmes donner un coup de main à leurs enfants.
Et oui, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une demande très forte de la part des parents quand les enfants ils commencent à arriver en quatrième, troisième, d'essayer de les aider en mathématiques et quelquefois d'être bloqués eux-mêmes et de ne pas pouvoir les aider. Et donc l'idée, c'était par exemple de les recevoir pour essayer de leur expliquer quel est le programme de quatrième, de troisième et de leur permettre d'aider leurs enfants.
Le coach ?
Non, moi j'ai envie de... Je vais pas... Pour une fois, je ne vais pas poser une question, je vais juste apporter un témoignage de l'extrême importance de ce que vous faites. Moi, je dirige, comme vous le savez, un tour opérateur, une agence de voyage qui fait des très beaux voyages, très émotionnels, très artistiques, etc. Or, je n'aurais jamais réussi à monter tout ça si je n'étais pas un mathématicien de bon niveau. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on utilise les mathématiques tout le temps dans la vie. Et c'est un outil fantastique et extrêmement intéressant. Donc vraiment, je vous encourage à aller... tous ceux qui stressent, là, comme toi, Anaïs,
bah oui,
sur les
ouais.
maths, d'aller progresser. Parce qu'en fait, ça vous aide tout le temps, y compris pour analyser les phénomènes émotionnels. Mmh. C'est ça qui est génial dans les maths.
Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien, même sans apercevoir parfois.
Bien sûr, mais le nombre de fois où on est confronté à des chiffres dans la journée, mais c'est mais le nombre
le temps,
de sondages...
Tout le temps, moi, par exemple, ça m'a permis d'évaluer, lorsque j'implante Voyageurs du Monde à Grenoble, combien je vais avoir de clients, les flux des queues, quand les clients téléphonent, comment je dirais répartis. C'est un truc incroyable, les mathématiques. Parce que ça analyse tous les phénomènes naturels.
Et j'en connais un qui compte aussi, c'est le réalisateur Thomas qui est derrière la vitre et qui me dit qu'il faut faire une petite pause.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous aimez jouer, vous êtes fan de bridge, et bien ça aussi, ça peut ouvrir votre appétit pour les mathématiques. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 grâce aux matières innovantes et ludiques pour apprendre les mathématiques aux élèves. Ça existe. Si vos enfants n'aiment pas les maths, ils vont les adorer grâce à toutes ces matières, ces manières innovantes d'apprendre. Et on les découvre avec vos invités, Raphaël Duchemin, aujourd'hui.
Oui, on ne peut pas aimer les maths, mais aimer le bridge, par exemple. Et pourtant, ce sont les mathématiques que nous utilisons quand nous jouons au bridge. Bonjour Michel Gouy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien professeur de mathématiques, vous aussi, inspecteur académique en mathématiques.
En retraite.
Vous êtes aperçu...
Inspecteur académique, ça n'est pas rigolé tous les jours.
Vous vous êtes aperçu en jouant que derrière le jeu, il y avait des tas d'activités mathématiques possibles. Par exemple, le calcul, les statistiques...
Tout à fait. En fait, à travers le jeu de bridge, les élèves vont pouvoir calculer et quelque chose de tout simple qui, pour vous, apparaît évident. Même si vous n'aimez pas les mathématiques, vous allez m'affirmer que vous savez compter jusqu'à 13.
Oui. Ouais.
Tout à fait. Je peux vous démontrer très rapidement, en moins d'un quart d'heure, que vous ne savez pas compter jusqu'à 13.
Ah bon ?
Eh oui, parce que compter jusqu'à 13, c'est faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
Oui.
Le problème, c'est quand on joue, il va falloir compter les cartes, se poser des questions, combien de cartes restent. Et là, je démontre aux élèves, c'est assez amusant, parce qu'évidemment, au départ, ils me disent « Monsieur, si, on sait compter jusqu'à 13, monsieur, c'est facile !» Et on leur montre, on fait un pari, que très rapidement, ils vont oublier une carte. Et donc là, va se poser plein de problèmes. Qu'est-ce que c'est que compter jusqu'à 13? Comment se décompose le nombre 13? Voilà. Et au niveau du collège, vont se poser des problèmes de probabilité, de statistique. Il y a des tas de choses. Et puis, tout simplement, en mathématiques, on est pour la résolution de problèmes. Eh bien, une donne de bridge, c'est un problème à résoudre.
Du coup, vous avez décidé, avec la Fédération de bridge et l'Éducation nationale, de concevoir les mathématiques du bridge.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'Éducation nationale, on a signé une convention il y a maintenant 6 ans. Hein, donc, elle devrait être renouvelée là, à la rentrée. Et dans cette convention, il était indiqué que le ministère souhaitait, et c'est tout à fait normal, avoir des documents qui pouvaient être présentés aux professeurs, qui permettent aux enseignants d'intégrer le bridge comme outil pour faire des mathématiques. Et donc, différents documents ont été édités et ces documents servent les différentes formations qu'on fait auprès des enseignants.
Vous êtes venu avec le petit bridge dès 6 ans. Ça veut dire qu'on peut apprendre à jouer au bridge dès 6 ans ?
Tout à fait. Lors d'une formation, on disait toujours que le bridge, il fallait être bon, en gros, avoir une dizaine d'années. Et des professeurs de CP m'ont dit « Mais c'est intéressant, votre jeu. » Et donc, ils ont voulu le tester. Bon, donc j'ai été voir ces professeurs, j'ai été testé avec eux, et je me suis aperçu que les cartes classiques posaient quelques problèmes, et de ce fait, on a inventé un jeu qui est utilisable dès la classe de CP, et qui reprend exactement le principe du bridge.
Donc, par exemple, on a des cartes de couleurs.
Vous avez changé
les trèfles,
carreaux, cœur, pique, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, voilà, en fait,
on a plus différencié.
On a exactement. La mouche, la souris, le perroquet,
voilà,
le cochon,
rouge,
la trottinette.
Oui, parce qu'en fait, un des problèmes,
regardez,
c'est que quand on demande aux élèves combien il y a de couleurs, on nous dit 2.
Et pour pas qu'ils aient des problèmes de mémoire.
Exactement.
Et qu'ils se concentrent sur les mathématiques.
Voilà.
C'est très malin, votre
tout
truc.
À fait. Et en fait, les tests qu'on fait sont excellents. Là, comment dire, dans les écoles où je vais travailler, Actuellement, il y a des collègues de CP qui utilisent ce jeu et qui sont extrêmement contents. Et ce qui est également intéressant, c'est que de ce fait, les parents sont également intégrés à l'enseignement. Puisque c'est vrai que pour un enseignant, cette méthode de travail, apprendre en jouant, ouais, pose des problèmes techniques. Hein. Il faut être des réserves, vérifier, etc. Et du coup, ils ont même réussi à intégrer les parents.
Donc vous faites des tournois dans les écoles aujourd'hui?
Tout à fait. En fait, dans les écoles, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend le jeu. À travers le jeu, on fait des mathématiques. Et la cerise sur le gâteau, c'est le tournoi de fin d'année. Et ce qui est important, c'est qu'en mathématiques, quand on apprend quelque chose, on fait un exercice. Eh bien, là, au bridge, l'exercice, c'est une donne.
Il y a le bridge avec les cartes. Je crois que vous avez trouvé aussi, Paul, des gardois qui ont lancé des jeux de cartes pour ne plus avoir peur des maths. C'est un peu, on va dire, le même principe, la même idée, en tout cas.
Absolument. Shifuku et Timoul, c'est le nom de deux jeux commercialisés et destinés donc aux enfants qui ont des problèmes avec les maths. C'est un grand-père dont la petite fille avait du mal avec les tables de multiplication qui a créé Timoul, un jeu de cartes qui permet de les apprendre de manière ludique. Chaque chiffre est représenté par un shifu, qui est un animal en forme de chiffre à qui il arrive des histoires. Et c'est en suivant leurs aventures qu'on arrive à les multiplier. Le même homme a créé avec sa fille Shifuku, donc, pour apprendre à faire des opérations sans s'en rendre compte. C'est un jeu de plateau comme un jeu de loi, sauf que pour faire avancer l'ogre et le petit pousset, les deux personnages, il faut faire des opérations, des multiplications, des additions, des soustractions.
Anissa, je crois que vous aviez une question.
Mais ce que je voulais savoir, moi, c'est sur le jeu de
sur
bridge.
Le petit bridge. Oui.
Si les enfants s'y mettent à 6 ans, qu'ils le maîtrisent, qu'est-ce que ça va débloquer chez eux après pour justement être plus à l'aise avec les mathématiques?
Ah bah en fait, on va les faire travailler rien que, par exemple, tous les problèmes de raisonnement, les problèmes d'anticipation. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous jouez aux cartes, alors, imaginons que, alors c'est un jeu d'équipe, oui, hein, alors il faut savoir que dans ce jeu-là, il y a un jeu qui est étalé, que tout le monde voit.
Bon. Et le mort.
Bon. Et tout bêtement, imaginons que vous avez l'as de carreau et le 2 de carreau. Moi, j'ai le roi de carreau et le 3 de carreau. On entame carreau, la question c'est, est-ce qu'on prend avec l'as ou avec le roi? Vous allez me dire, ça revient au même, dans les deux camps, on gagne. Pas du tout, parce que suivant le cas, oui. On pourra peut-être faire telle chose, on pourra peut-être pas faire telle autre chose. Et il y a tout un travail d'anticipation, de réflexion. Bien sûr. Et avec les élèves, par exemple, en mathématiques...
Ça leur ouvre des possibilités différentes.
Tout à fait, parce qu'en mathématiques, on dit l'ordre des choses a de l'importance, l'ordre des calculs. Bon. Aux cartes, l'ordre dans lequel je joue les cartes a-t-il de l'importance? Réponse, oui.
Oui.
Et donc, c'est un moyen de l'apprendre.
Tu auras une question?
Oui.
Vous faites ça à compter de quel âge et jusqu'à quel âge? Parce qu'on sait que le bridge est un jeu à la fois très simple et extrêmement complexe, à très haut niveau. Donc on pourrait, on peut pousser jusqu'au terminal, voilà.
Mais bien sûr, en fait, alors on démarre. Alors le bridge classique. Hein,
et ouais, vous réadaptez le jeu à chaque fois.
Tout à fait, enfin, le bridge classique. Donc en fait, le bridge classique, en classe, on démarrait fin CM1, début CM2.
Ouais.
Et on démarre le bridge classique avec une méthode qu'on appelle le mini-bridge. Alors, qui est une méthode extrêmement intéressante parce que ça permet de jouer très vite, contrairement à l'image qu'on a du jeu. Et le bridge, on peut aller jusqu'à l'université, voire plus. À titre d'exemple, dans un DUT à Maubeuge, un DUT d'informatique, on a mis en place, depuis 2 ans maintenant, un travail autour du bridge informatique. Et donc, il y a des projets d'informatique liés au bridge.
Question sur les enchères. Oui. Vous leur apprenez, Jaïs Lebel, tout ça, etc. Vous allez jusque-là ou pas?
Cette année, en une classe de CM2, j'ai appris l'enchère de Vincent Zatou. Et ce qui a été extraordinaire, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir filmé, c'est la manière dont les élèves ont répondu. Et il y a eu tout un travail avec ardoise, avec réflexion. Ça a été génial. Malheureusement, je n'ai pas eu la bonne idée de le filmer et je le regrette.
Eh bien, il faut recommencer. On reste ensemble et on continue à parler mathématiques.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on attend vos questions. 39-21 et Twitter, bien sûr, hashtag Europe 1. La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui on parle des maths qui ne font plus peur à personne grâce à cette émission et surtout grâce aux manières innovantes et ludiques d'apprendre les mathématiques aux élèves. Ils sont là, ceux qui ont inventé ces manières innovantes. Ils sont à vos côtés, Raphaël Duchemin, et vous pouvez les interpeller, leur poser toutes vos questions au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Karl Bouabou, cofondateur et président de Yokimi, est avec nous. Jean-Baptiste Aubin, directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, et Michel Gouy, responsable de Bridge éducatif à la Fédération française de bridge, notre coach Jean-François Rial. Et à mes côtés aujourd'hui, Paul Lassène. On a déjà des questions, une question en tout cas sur Twitter, Anissa.
Il y a Iliès qui vous demande à tous les trois, il dit la non-culpabilisation de celui qui ne sait pas, l'encouragement à progresser, c'est très important aussi. Est-ce que c'est prévu dans ces applications ?
Complètement. Alors en fait, quand on se trompe avec Yokimi, elle n'a pas tout de suite dire.
Je me suis trompée, hein, j'ai mis un mauvais score tout à l'heure et
super,
elle me demande si je veux un indice supplémentaire.
Bah, exactement, en fait, elle va t'aider à, voilà, si tu n'arrives pas à la question toute seule, bah, en fait, elle va t'aider, elle va te donner des indices, elle va te dire c'est pas grave, réessaye, tu vas y arriver.
Elle me dit de poser l'addition sur une feuille, c'est ce que j'ai fait, j'ai quand même fait une erreur.
Ah, bah, c'est pas grave.
J'ai fait exprès, hein, bien sûr.
Donc en effet, il faut toujours redonner confiance aux élèves, leur montrer que c'est en se trompant qu'on apprend. Et donc l'échec, c'est pas juste avoir 0 sur 20 en maths et les maths, c'est pas fait pour moi. C'est en fait un moyen d'apprendre. Donc quand on se trompe, on comprend pourquoi et après on s'améliore comme ça.
Parfaitement. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Et d'ailleurs, on a un groupe qui est enfermé depuis 3 semaines dans l'escape game. On espère que ça termine.
Est-ce qu'on a d'autres questions?
Oui, on a beaucoup de réactions. C'est une émission qui vous fait parler parce que les maths, soit on les aime, soit on les déteste. Il y a Jean-Marc qui dit « Les mathématiques ne devraient être abordées que par le jeu et la manipulation. La construction du nombre est primordiale chez les plus jeunes. Bravo à vos intervenants. » Et puis, nous avons un tweet de la Fédération française du jeu de dames. « Les dames à l'école, c'est aussi une approche mathématique et géométrique. Comme les jeux de l'esprit en général, les activités pendant les rythmes scolaires à 4 jours et demi permettent cela avec les enfants. »
Oui, c'est important, Paul, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en France, les jeunes élèves ne sont vraiment pas doués en maths.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. D'après les dernières évaluations de compétences mathématiques des élèves de CE1, une grande partie d'entre eux ont des lacunes en calcul mental et en résolution de problèmes. Autre chiffre marquant, seuls 21% des élèves de CM1 atteignent un niveau élevé en maths. Ah ouais. Et enfin, d'après plusieurs études nationales des dernières années, à la fin de l'année de CM2, plus de 40% des élèves ne réussissent pas à acquérir les connaissances de base relatives au calcul mental et aux opérations sur les grands nombres et les décimaux.
Et ça, c'est pire qu'avant ? On a un peu de référence.
Oui, c'est pire qu'avant.
Ça ne s'améliore pas. C'est pour ça que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, essaye de faire changer les choses.
Un pays très haut en mathématiques, ouais, historiquement.
Au niveau, comment dire.
Élite de l'élite.
Et de l'élite.
Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir.
On a toujours cette élite-là, en tout cas.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, justement, est un
élément. Cédric Villani en est un exemple.
Ben, le jeu est un élément extrêmement important, justement. Parce que le jeu, on va essayer. On peut essayer, on peut manipuler, on peut regarder, on peut se tromper. Et il n'y a rien de grave. On ne va pas être puni parce qu'on s'est trompé au jeu.
Mais je pense qu'avec les Américains et les Russes, on fait partie des nations les plus pointues au monde en termes de mathématiques. Hein.
Oui, au niveau des médailles Fields.
Au niveau des médailles. Ouais, c'est l'intermédiaire qui pose problème.
Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que la résolution de problème. Si vous voulez, je vous donne un nom très simple. Hein, ouais. Je vous pose un problème de géométrie. Ouais. Vous ne connaissez pas votre théorème de géométrie. Vous ne pouvez pas le faire. Ouais. Votre avis sur. On va dire, l'élève ne sait pas raisonner. Bah non,
il n'a
pas les connaissances. Donc,
bien sûr.
En revanche, si on le met en situation.
Si on lui fait travailler sur un jeu, etc., où il n'y a pas de connaissances particulières, ouais, là, l'élève va dire, mais il sait raisonner. Moi, je vois des élèves qui me sortent des raisonnements absolument géniaux, ouais, et alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de bridge. Et qui justifie en plus.
Jean-Baptiste Aubin, je voudrais qu'on termine avec vous. Vous avez des projets, parce que je crois que vous êtes en train de faire des valises, comme pour les magiciens, mais avec des mathématiques à l'intérieur.
Oui, et l'analogie avec la magie est très intéressante parce qu'on va en effet essayer de faire des valises de mathématiques, mais de mathématiques magiques. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a été voir quelqu'un qui fabrique les escape games, on a été voir aussi le champion de France de magie. Et on lui a demandé ses secrets. Parce qu'un magicien, quand il connaît quelque chose, lui, il le garde bien secret. Et nous, les mathématiciens, quand on sait quelque chose, ben, on le dit à tout le monde, mais personne ne nous écoute. Donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'aller voir avec lui.
Susciter la curiosité.
Voilà. Et donc l'idée, c'est de créer des valises qu'on va donner aux professeurs des écoles pour justement que cette magie, qu'on aborde les mathématiques sous une forme un peu différente, et plus ludique, plus magique, et pour que les plus jeunes en profitent aussi.
J'espère qu'on vous aura aidé à aimer ou à redécouvrir les mathématiques aujourd'hui. Merci.
À titre d'information, vous avez les livres de Dominique Soudet sur la magie et mathématiques. Oui, c'est assez extraordinaire.
Et il se trouvera au Salon des Jeux dans les jours qui viennent, place Saint-Sulpice.
Et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, elle existe depuis 1921 et est devenue la spécialiste du sac à dos. Millet est l'entreprise qui va bien, merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités jusqu'à 14h. Et il est temps de découvrir aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Elle est française et on va respirer l'air de la montagne, Raphaël.
Oui, cette entreprise, figurez-vous que c'est Millet. Bonjour Frédéric Ducruet.
Bonjour Laetitia, merci pour votre invitation. Bonjour Raphaël.
C'est on pas va grave, reprendre. C'est pas grave. Non, non, on reprend pas, on est en direct, mais vous savez, Laetitia a préparé voilà, cette émission. Bonjour, avec Raphaël, vous. Et c'est important de le signaler, on n'en parle pas assez. Face à vous, notre coach, Jean-François Rial, Paul Lassen qui m'accompagne. Ça fait 17 ans que vous êtes, vous, dans l'entreprise, entreprise qui a été créée en 1921 par un couple, les Millet en l'occurrence. À l'époque, ils vont commercialiser un sac pour faire les courses. C'est le produit de départ.
1921, les premiers sacs de marché, vous savez, ces grands sacs noirs, très résistants. Et ensuite, l'histoire s'accélère avec, en 1950, les deux frères, René et Raymond, qui, un est commercial, l'autre est chargé du développement, qui vont créer le produit qui marque mon histoire, qui marque l'histoire de la montagne Millet,
le
premier sac à dos. Est ce premier sac à dos de montagne, élaboré avec le CAF d'Annecy, sur les pentes de Chamonix, a accompagné un événement que tout le monde connaît, le premier 8000 de l'histoire gravi par l'être humain, l'Annapurna, en 1950.
Ça n'est finalement que dans un deuxième temps, on peut le dire, que l'entreprise va commencer à se diversifier. Son ADN, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le sac à dos.
L'ADN, c'est le sac à dos. Ensuite, la deuxième étape, c'est en 1974, un sac à dos qui est déjà dans l'esprit d'innovation de la société Millet, c'est le sac à dos en nylon, extrêmement résistant, extrêmement léger. Et aujourd'hui encore, on sait innover autour du sac à dos. Et ensuite, la diversification avec les produits que vous connaissez bien, les Gore-Tex, les Polaires, etc.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que systématiquement, quel que soit le produit que vous inventez, vous le faites en le faisant tester par les guides de Chamonix. C'est important d'avoir tout de suite le retour.
Vous savez, Millet a la chance d'être à Annecy.
Annecy, oui.
Annecy à trois quarts d'heure seulement de Chamonix, capitale de l'alpinisme. Et nous capitale de l'alpinisme. Et nous avons la chance d'être les fournisseurs officiels depuis 9 ans maintenant de la première compagnie des guides au monde, la compagnie des guides de Chamonix. Ouais. Avec eux, nous avons un relationnel professionnel, amical et ils sont 360. Nous avons un groupe de 60 personnes qui, tout au long de l'année, testent nos produits.
Alors, le design, le développement, tout se fait à Annecy. Mais aujourd'hui, le groupe n'est plus 100% français. Hein. Il appartient au groupe Calida depuis 2014, qui détient aussi Eder et la Fuma. Pourquoi ce choix ? Pour être plus fort, justement, sur le produit montagne ?
Le groupe Calida est un groupe suisse dont la marque Calida est leader dans les vêtements de leisure wear, home wear, dans tous les pays germaniques.
D'accord.
Vous gardez ici en France une grosse partie.
Nous sommes 250 en France. Tout le design, toute la recherche, toute l'innovation, tout le développement est fait en France. Ensuite, nous avons la grande fierté, parce que c'est vraiment important, d'avoir une usine en Hongrie, une usine en Tunisie, qui représente 250 personnes.
Sur des produits spécifiques. 40%
de notre production est fait par nous, sur les produits les plus techniques. Notre engagement, la qualité, la durabilité.
Alors, les produits techniques, ils sont là, avec nous en studio. Paul, que porte Paul avec nous, si vous nous suivez sur Europe 1.fr?
Alors, aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous, puisque je suis également ici pour lancer la collection printemps-été 2020, et vous avez deux innovations. La première innovation, c'est une veste pour le running, pour le trail running. Nous sommes très engagés autour du trail running en montagne. Et vous savez que soit on part très tôt le matin, 3h, 5h, soit on rentre très tard le soir, et il y a toujours des problèmes de visibilité.
Et Anissa porte un t-shirt et un sac à dos un peu particulier, je crois.
Ce t-shirt est entièrement éco-conçu, un autre engagement de Millet. Ce t-shirt est réalisé 100% à partir de plastique recyclé, de ces célèbres bouteilles plastiques qui sont retransformées et retissées. Et le sac à dos qui a mis 2 ans hein, de recherche et développement pour être mise au point, a été testée par la compagnie des guides. Et aujourd'hui, en sac de pur alpinisme, c'est le plus léger, le plus résistant
et
du marché.
Aussi, il est, que dit Jean-François ? Il est éco,
celui-ci est éco-conçu, c'est une nouvelle matière Dynema, complètement éco-conçu.
Ouais, vous aviez fait la doudoune aussi à partir de Polartec.
Vous avez des concurrents qui ont fait ça déjà ou vous êtes le premier ?
Alors, sur le sac à dos, nous sommes vraiment les premiers. Ouais. Nous sommes vraiment les premiers.
La suite, c'est quoi ? Encore des innovations ?
La suite, pour moi, le plus important, c'est notre engagement éco-responsable. On a vraiment une signature Low Impact qui nous engage, qui nous structure, sur lequel nous avons vraiment un engagement très fort.
Jean-François ?
Oui.
Je voudrais connaître chiffre d'affaires, résultat.
Alors, je vais donner le chiffre d'affaires. Le résultat est aujourd'hui... Alors, le chiffre d'affaires est de 104,5 millions d'euros net.
D'accord.
Et le résultat est profitable. Mais aujourd'hui, le résultat est communiqué dans le cadre du groupe Kalida. Je ne peux pas le délivrer.
Les Suisses, ils sont comme ça.
Nous sommes cotés deux fois, et à Paris, et à Zurich.
Ils sont cotés,
donc,
mais ils ne donnent pas les comptes des filiales.
On va essayer de les trouver. On les donnera la prochaine fois. C'est Millet. Mais ça reste une marque française,
c'est
malgré tout.
C'est une marque française. Et j'ai vraiment la chance de travailler avec des gens de talent et engagés.
Annecy, donc, dans les Alpes, la capitale mondiale,
ouais,
vous disiez,
parce que
Chamonix.
Nous, on a des filiales qui font du trekking, Terre d'Aventure en particulier, et on a des partenariats avec nos amis de Millet, et c'est vrai qu'ils font des produits fantastiques. Hein.
Et les
guides de Chamonix, c'est limite des ayatollahs, hein, c'est-à-dire que la capitale mondiale de l'athénisme, hyper exigeant, hyper pointu, enfin... C'est vraiment pas... C'est des gens avec qui il faut négocier, quoi.
C'est Millet. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Frédéric Ducreux d'être venu nous en parler aujourd'hui et nous raconter son histoire.
Merci beaucoup. Merci.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Une plateforme pour aider les hommes à prendre rendez-vous chez le médecin quand ils ont des problèmes sexuels. C'est Charles et c'est la solution. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, Raphaël Duchemin avec vos invités et tous les jours, la solution du jour. Messieurs, aujourd'hui, tendez l'oreille.
Oui, aujourd'hui, on va parler d'une plateforme de santé avec vous, Paul, pour aider les hommes qui ont notamment des problèmes sexuels.
Oui, et cet outil s'appelle charles.co. Charles, un peu comme un ami, un confident à qui vous iriez confier vos petits problèmes perso. Pour être clair, charles.co est une plateforme en ligne qui vous permet de régler vos troubles érectiles. Pour ne pas avoir honte de ce petit problème de santé, il vous propose un diagnostic avec un vrai comité scientifique indépendant composé de sexologues, pharmaciens et médecins. L'idée, c'est de décomplexer, comprendre et soigner un trouble souvent considéré comme honteux ou stigmatisant.
Bonjour Simon Berelier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Charles.co. Vous avez d'ailleurs commandé un sondage à l'IFOP. Il a été publié ce matin, qui nous apprend que 6 hommes sur 10 ont des troubles érectiles. Vous vous êtes lancé dans ce business parce que vous pensez que c'est justement quelque chose de très répandu et un peu passé sous le manteau.
Tout à fait. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a entre 3 et 4 millions d'hommes qui ont des problèmes récurrents d'érection. Et là-dessus, il y en a moins de 800 000 qui sont suivis médicalement. Donc l'idée était de savoir avec quel levier on peut réussir à les ramener à cela. Donc aujourd'hui, on a 3 leviers principaux avec la plateforme. C'est les faire parler, déjà. Ensuite, les reconnecter à des professionnels de santé. Et 3, surtout, éviter beaucoup de comportements à risque de gens qui achètent des médicaments contrefaits sur Internet sans consulter.
Et comment ça fonctionne, cette consultation en ligne ?
Alors concrètement, vous venez sur la plateforme, un homme va venir sur charles.co, il va pouvoir avoir de l'information d'abord, ensuite pouvoir avoir une téléconsultation avec un médecin sexologue, ce qui est assez dur parce qu'en France, ils sont moins de 400, donc nous on arrive à les mettre en contact avec des vrais spécialistes. Ensuite, si le médecin le juge nécessaire, il peut lui prescrire un traitement. Et avec ce traitement, le patient a l'option de se faire livrer depuis une pharmacie française pour garder toute cette confidentialité.
Et justement, en termes de confidentialité, c'est une question de santé. Comment vous gérez ça ?
Alors nous, tout est évidemment agréé, hébergeur de données de santé avec la CNIL, donc toutes les données sont protégées. Seul le médecin peut les voir, la plateforme ne peut pas les voir, et elles sont sécurisées sur des serveurs particuliers qui sont faits pour ça, pour les données de santé.
Le coach, Jean-François.
Vous avez démarré depuis combien de temps ? Vous avez des clients qui viennent sur la plateforme ?
Alors, on a commencé il y a 2 semaines.
Vous avez 4 millions qui... Peut-être qu'il y en a déjà 2 millions, je ne sais pas.
Non, on n'a pas encore les 4 millions. Non. On a commencé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, c'est vraiment le lancement en termes de communication.
Ouais.
On a déjà eu beaucoup, beaucoup de patients, plusieurs dizaines par jour. Et on se rend compte de plein de choses hyper intéressantes. On a eu des gens de 20 à 80 ans qui ont fait tout le parcours. On a eu des femmes qui nous ont appelés pour leur homme qui était à côté d'eux et qui leur soufflaient parce qu'ils avaient trop honte même d'appeler pour avoir des renseignements. Donc, on sent qu'on libère quand même des énergies et des complexes.
Vous êtes très fort en SEO ?
On commence, donc on est en train de travailler sur les SEO. Ouais.
Et justement, ces premiers clients, c'est quoi leur retour? Ils vous remercient
On se rend compte que quand ils nous appellent, ils marchent un peu sur des œufs, ils ont un peu peur. En plus, là, aujourd'hui, on commence sauter un verrou là-dessus. Ouais. Le but, c'est qu'ils aient confiance dans toute la plateforme.
Parce que c'est par téléphone ou c'est en ligne ou c'est les deux?
On a trois modes de téléconsultation qui s'adaptent à chacun. Il y a de la visioconférence, du téléphone et ils peuvent aussi faire par message écrit. D'accord. Aujourd'hui, on a assez peu de visio parce que les gens ont justement peur du visuel. L'objectif est aussi d'éviter le face-à-face pour libérer la parole.
Comment vous financez?
Alors, nous, on a levé la première semaine, on a créé l'entreprise, on a levé 400 000 euros. Donc, c'est comme ça qu'on se finance aujourd'hui. Et puis là, avec les premiers clients, on va pouvoir en vivre.
Et vous avez pensé d'ores et déjà élargir le spectre pour aller peut-être à l'international et aussi vous développer sur d'autres secteurs?
Tout à fait. Et puis déjà, nous, le but, c'est de devenir une vraie plateforme de santé pour les hommes un peu holistique avec plusieurs pathologies. Donc, on va assez vite traiter l'éjaculation précoce qui est un peu dans le même thème. Mais après, on va aller sur tout ce qui est fertilité et d'autres choses. Voilà.
Et c'est remboursé par la Sécurité sociale ou pas?
Aujourd'hui, non, parce que les conditions de remboursement de la téléconsultation sont très restrictives. C'est soit un médecin traitant, soit un médecin recommandé par votre médecin traitant que vous avez vu en physique dans les 12 mois. Pour ça, vous n'avez pas envie d'aller voir votre médecin traitant. Donc, voilà.
En tout cas, ça démarre. Ça s'appelle charles.co.
Charles.co.
Et ça va rendre beaucoup de services aux hommes et aux couples en général.
Absolument.
Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
C'était
juste
de la
un message
solution.
Pour les femmes, parce que 75% des hommes qui vont consulter le font parce que leur partenaire les y pousse. Donc,
oui, donc c'est pour ça que je parlais des couples. C'est vrai que c'est important dans les couples pour libérer la parole et régler des problèmes. Merci à Paul qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Jean-François qui était notre coach. On se retrouve demain, Anissa.
À demain, dans un instant, à 14h pile sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelatte en 95 à Toulon. On retrouve le cadavre d'un adjoint au maire Front National, Jean-Claude Poulet-Dachary, au pied de l'escalier de son immeuble. Alors, chute accidentelle ou assassinat, vous allez le découvrir dans un instant avec Christophe Ondelatte.